Aujourd'hui, camarades, parlons de l'Allemagne et de la Palestine. Je pense que vous avez suivi ce qui se passe actuellement en Palestine. Permettez-moi de revenir brièvement pour éclairer mes propos sur quelques événements historiques allemands. Il y a longtemps à mon échelle, mais pas si longtemps à l'échelle de l'histoire humaine, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et les horreurs que l'on connaît. Le parti nazi en 1945 comptait 9 millions d'adhérents, car il faut se rappeler qu'à l'époque, tout le monde était ouvertement antisémite, et ce, dans toute l'Europe. Puis, avec la fin de la guerre, il y a eu la dénazification de l'Allemagne. Malheureusement, elle a été superficielle. Seuls quelques principaux responsables du régime ont été condamnés. Pire, ils sont nombreux, sont ceux qui ont réussi à échapper à la justice et qui ont pu assumer des fonctions prestigieuses. Comme M. Adolf Heusinger, haut dignitaire militaire nazi, qui a ensuite était le président du comité militaire de l'OTAN jusqu'à sa paisible retraite en 1964. Ou encore M. Hans Globke, qui a supervisé en 1936 les ordonnances sur les critères de souillure raciale du XIIIe Reich. Il est devenu par la suite directeur du cabinet de M. Konrad Adenauer, premier chancelier fédéral allemand après la Deuxième Guerre mondiale. Citons encore M. Theodor Oberländer, classé par le journaliste et historien allemand Goetze Ali parmi les intellectuels nazis qui ont conceptualisé l'idée de la liquidation des populations à l'Est, juives notamment, dans la mesure où il préconise une extension de la civilisation germanique au détriment des Slaves et des Juifs, car l'Allemagne est selon lui surpeuplée. Et ce monsieur est devenu, cela semble fou mais c'est bien réel, ministre fédéral des expulsés, des réfugiés et des blessés de guerre de 1953 à 1960, où il a finalement dû démissionner sous la pression populaire. De ça, on en a encore trop peu parlé. Et pour cause, cette situation est similaire à ce qui s'est passé dans tous les pays voisins. De Gaulle, par exemple, ayant besoin d'une administration, a gardé des vichistes dans son appareil étatique. Toujours à la fin de la guerre, afin d'apaiser la situation et de dédommager les rescapés du massacre, l'Europe leur a offert un pays. Pour les plus jeunes d'entre vous, camarades, oui, l'Europe pouvait, sans sourciller, ni fournir un emballage idéologique très fourni, décider de l'utilisation d'une terre qui ne lui appartenait pas et qui était habitée pour l'offrir aux victimes de ses propres crimes. Je précise aussi que cette solution se voulait pacifiste. La raison officielle du choix du lieu était le lien historique entre la religion juive et Jérusalem. Le fait que ce territoire soit dans une zone généreusement fournie en pétrole et sous contrôle de pays voulant contrecarrer les ambitions impérialistes occidentales, voire nationaliser les ressources minières, faisait évidemment partie des raisons de leur choix. Mais cela a été peu éclairé jusque-là par nos chers dirigeants. En effet, ces gens-là préfèrent nous parler de religion que d'intérêt économique, sûrement pour ne pas nous embêter avec les chiffres et nous laisser nous concentrer sur l'essentiel. Ce sont donc les raisons religieuses qui ont été uniquement mises en avant. Depuis la création de l'État d'Israël, les relations entre les deux pays, Allemagne et Israël, n'ont cessé de se renforcer, tant au niveau diplomatique que économique et militaire. Ce soutien militaire a par exemple été décisif, selon les observateurs, dans la victoire israélienne de la guerre de six jours en 1967. Entre ces deux pays, de nombreux accords ont été signés pour assurer la sécurité d'Israël, car la sécurité d'Israël est une des pierres angulaires de la politique étrangère allemande. Oui, c'est fou, mais c'est bien réel. En 2021, la chancelière Madame Angela Merkel a affirmé lors de son passage à Jérusalem que la sécurité d'Israël était raison d'État pour l'Allemagne. Et actuellement, l'Allemagne réfléchit à inclure dans le processus de naturalisation des étrangers vivant sur son sol, et plus précisément à l'étape du questionnaire imposé aux candidats pour valider leur bonne connaissance de leur pays d'accueil, des questions sur Israël, comme la date de création de ce pays ou les peines encourues en cas de propos négationnistes. Et cela nous ramène à la Palestine et les horreurs qui s'y passent actuellement. Évidemment, comme pour toutes les guerres actuelles, nos dirigeants capitalistes bourgeois y ont des intérêts économiques et pétroliers et apprécient de pouvoir au passage enquiquiner en douce les pays arabes musulmans les plus puissants. Mais pour nous, le peuple, il semble que si nous laissons faire un tel massacre, c'est en souvenir de l'hécatombe qui a eu lieu en Allemagne. Qu'avons-nous compris du génocide contre les Juifs qui s'est déroulé sur notre sol? Qu'en sa mémoire, nous devions laisser les victimes de hier devenir les bourreaux d'aujourd'hui? Si nous sommes spectateurs quasiment muets, c'est que nous n'avons pas réglé chez nous nos comptes dans nos têtes sur le génocide. Et cela nous amène à accepter le narratif qui fait des enfants palestiniens qui meurent sous les balles de futurs terroristes. Est-ce que cela nous permet de nous laver notre conscience auprès des victimes actuelles? Alors que, camarades réalistes, nous savons que nos dirigeants n'ont rien à faire des morts, qu'ils comptent uniquement les votes électoraux. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos dirigeants plus longtemps. Le 10 mai 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une très large majorité, 143 voix sur 193, la résolution en faveur de l'admission de l'État de la Palestine en tant que membre de plein droit de l'ONU. Peut-être, camarades, s'il faut chercher des solutions non impérialistes mais pacifistes, s'il faut chercher des spécialistes qui luttent contre les génocidaires, peut-être devons-nous nous tourner ailleurs qu'en Allemagne. Nous pourrions ne plus suivre les Allemands, mais écouter le reste du monde.